Bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité. Au sommaire du numéro de février, un dossier spécial sur les entreprises en difficulté, avec des chiffres, des analyses d'experts sur la détection des signaux faibles et les procédures à mettre en œuvre pour éviter le pire. Alors, pour commencer, les sources que nous avons analysées dressent un tableau qui, à première vue, est assez glaçant. On parle d'un record de défaillances d'entreprises en 2025. Le chiffre, c'est 69 957. On a vraiment frôlé la barre symbolique des 70 000.
Oui, c'est énorme.
Et ça menace 267 000 emplois. C'est le genre de gros titre qui forcément inquiète.
Absolument. Le chiffre brut est mauvais. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est le plus haut niveau jamais enregistré. C'est un peu comme arriver sur une scène de crime. On constate les dégâts.
D'accord.
Mais comme dans toute enquête, le premier constat n'est pas toujours le plus pertinent. Si on regarde la dynamique, l'histoire est radicalement différente.
C'est-à-dire, ce gros titre serait trompeur ?
Disons qu'il cache l'information la plus importante. La vraie nouvelle, ce n'est pas le nombre de défaillances, c'est la vitesse à laquelle elles augmentent.
Ah.
Ou plutôt la vitesse à laquelle elles n'augmentent plus. Pour vous donner une image, au quatrième trimestre 2023, la hausse était de 38%. C'était une véritable hémorragie.
Oui, c'est colossal.
En 2024, sur la même période, on est tombé à plus 10%. Et fin 2025, on est à plus 1,7%.
1,7%.
Exactement. On est passé d'une hémorragie à un simple suintement, si vous voulez.
Je vois. Donc le grand titre, c'est un nombre record de malades, mais l'information cachée, la vraie, c'est l'épidémie ralentit massivement.
C'est une excellente analogie.
Le patient n'est pas guéri, mais la fièvre est en train de tomber. C'est un peu ça. Hein.
C'est tout à fait ça. Le plateau est très élevé. C'est douloureux, mais on n'est plus dans cette phase d'accélération folle. Et il y a un deuxième indice, encore plus encourageant.
Lequel ?
Il se trouve dans la nature même des procédures. On voit moins de liquidations judiciaires directes. Vous savez, la mort subite de l'entreprise.
D'accord.
Elles ont même baissé de 1,3%. Et en parallèle, les redressements judiciaires, qui sont une tentative de sauvetage, eux, ont augmenté de 8,6%.
Ce qui veut dire que les dirigeants n'attendent plus le dernier moment, ils tirent la sonnette d'alarme plus tôt.
Précisément, ils anticipent davantage. Ils se tournent vers le tribunal pour trouver des solutions, pas seulement pour acter un décès. Et ça, c'est un changement de mentalité majeur.
C'est très intéressant. Alors, si on poursuit l'enquête, qui sont les victimes de cette vague ? Est-ce qu'on a un portrait robot ? On pense souvent aux toutes petites structures.
Oui, c'est vrai, elles souffrent. Mais le phénomène le plus marquant et le plus contre-intuitif, il concerne les entreprises de taille plus importante.
Ah bon ?
Oui, les PME et les ETI de plus de 100 salariés. Elles sont vraiment en première ligne. Pour cette catégorie, les défaillances ont bondi de 18,6% sur l'année.
18,6, c'est 6 fois plus rapide que la moyenne générale.
Exactement.
Alors, là, attendez, il y a quelque chose qui m'échappe. Vous nous dites que les plus grandes entreprises sont les plus touchées, avec une croissance des faillites bien supérieure à la moyenne.
C'est bien ça.
Mais vous vous disiez aussi il y a un instant qu'elles anticipent mieux. Ça semble totalement contradictoire. Comment c'est possible ?
C'est tout le paradoxe de la situation actuelle. Elles sont effectivement plus exposées aux chocs. L'inflation des coûts, les chaînes logistiques, un besoin de trésorerie plus important.
D'accord, ça explique la hausse.
Oui, mais en même temps, elles ont les outils de pilotage, les conseils, une culture de la gestion qui leur permettent de réagir. Et les chiffres le prouvent. Dans 90% des cas, ces grandes entreprises évitent la liquidation.
Ah oui, quand même.
75% obtiennent un redressement judiciaire pour se restructurer et 14% une sauvegarde, ce qui est encore plus précoce. Pour le dire simplement, elles souffrent plus, mais elles meurent moins.
Elles prennent les coups, mais elles encaissent mieux. Et on sait quels secteurs sont les plus concernés parmi ces entreprises ?
Oui, 3 secteurs ressortent très nettement. L'industrie manufacturière, le secteur de la santé et de l'action sociale, et enfin les services administratifs et de soutien.
D'accord. Et pour les plus petites alors ?
La situation est moins grave.
Moins spectaculaire en croissance, mais la dégradation est bien là. Pour les TPE de moins de 3 salariés, on a une hausse de 4%. Mais là où c'est vraiment critique, c'est chez les entrepreneurs individuels.
C'est-à-dire ?
Là, la hausse des défaillances est de 25% en un an. Et dans certains métiers, c'est une implosion. Le transport par taxi, plus 137%.
137%.
Et la livraison à domicile, plus 255%.
255%. C'est incroyable. Le secteur qui a explosé pendant le Covid et celui qui implose aujourd'hui, quel retournement ! C'est un exemple parfait. On voit bien que l'explication du rattrapage post-Covid ne tient plus. Pendant longtemps, on a dit qu'on normalise la situation après les aides de l'État.
C'est fini, ça.
Oui. Les entreprises qui tombent aujourd'hui ne sont plus des zombies du Covid.
Bon, alors quels sont les coupables? Si ce n'est plus ce rattrapage, qu'est-ce qui explique cette situation si difficile?
Ce n'est pas un seul coupable, c'est une accumulation. Une sorte de permacrise, comme le disent les experts dans nos sources. À peine sorti de la crise sanitaire, on a eu la crise énergétique, l'inflation, la crise immobilière.
Une succession de chocs.
Exactement. Et un autre facteur, plus silencieux, s'est ajouté.
La hausse des taux d'intérêt, j'imagine.
Justement, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. L'image est très parlante. Une lame du ciseau, c'est le coût de votre dette qui augmente, ce qui plombe vos charges.
D'accord.
L'autre lame, c'est l'accès à de nouveaux crédits qui se durcit. Les banques sont plus frileuses. L'entreprise est prise en tenaille.
Donc une lame, c'est « mon crédit me coûte plus cher » et l'autre, c'est « je ne peux plus emprunter ». Et les deux se referment en même temps.
C'est tout à fait ça. Et pour aggraver les choses, un vieux démon français est revenu, Cadan, les retards de paiement.
Ah oui ?
Ils ont atteint un pic plus de 14 jours en moyenne. Ça peut sembler peu, mais à l'échelle du pays, ça représente 13 milliards d'euros de trous de trésorerie pour les TPE-PME.
13 milliards ?
On estime que ça augmente le risque de défaillance d'une entreprise saine de 25%. C'est un véritable poison lent. Des capitaux propres trop faibles, des chaînes logistiques pas assez résilientes, une numérisation encore incomplète.
D'accord. Le constat est fait. Il est complexe. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de passer à la prévention. Comment fait-on pour anticiper, pour repérer les problèmes avant l'urgence vitale?
On touche au cœur du sujet. C'est la détection des signaux faibles. Et il faut bien comprendre une chose. Les vieilles méthodes ne fonctionnent plus. Les formules de scoring basées sur quelques ratios du bilan...
C'est dépassé.
C'est comme conduire en regardant que dans le rétroviseur. Ça vous dit où vous étiez, pas où vous allez.
Alors, c'est quoi un signal faible en pratique? C'est plus subtil que le compte en banque dans le rouge, j'imagine.
Beaucoup plus. C'est un peu comme ce petit bruit étrange que votre voiture fait sur l'autoroute. On peut l'ignorer, mais on sait que quelque chose ne va pas.
C'est une bonne image.
Le signal fort, c'est le voyant rouge qui s'allume. Là, c'est trop tard. Le signal faible, c'est cette vibration que seul le conducteur régulier perçoit. En entreprise, ce n'est pas la tension de trésorerie sur un mois.
Non.
C'est plutôt l'érosion lente des marges, trimestre après trimestre. C'est le fait de devoir de plus en plus s'appuyer sur la facturage. C'est un fournisseur historique qui, soudain, vous demande de payer comptant. Ce sont tous ces petits changements qui, ensemble, indiquent une dégradation.
C'est clair, mais ça peut sembler un peu diffus. Est-ce qu'il existe des outils concrets pour structurer cette recherche de signaux faibles?
Oui. Et l'un des plus efficaces est d'une simplicité surprenante. Il s'agit de revisiter la fameuse matrice SWOT. Force, faiblesse, opportunité, menace.
Le SWOT, d'accord.
Mais au lieu de la regarder en quatre cases séparées, il faut faire une lecture en diagonale. Il faut croiser les faiblesses internes de l'entreprise, le W, avec les menaces externes du marché, le T. C'est là que se trouvent les plus grands risques.
Donnez-moi un exemple concret pour qu'on visualise bien.
Bien sûr. Prenons une PME familiale. Une faiblesse interne, le dirigeant a 65 ans, pas de relève préparée. C'est un fait.
D'accord.
Une menace externe, le marché du travail est tendu, difficile de recruter des cadres. Pris séparément, ce sont deux constats. Mais si vous les croisez...
Le risque devient évident. Le jour où le dirigeant part, l'entreprise est en danger.
Voilà. Le signal faible devient un risque majeur et tangible. L'identifier 5 ans à l'avance, ça change tout.
C'est limpide. Une fois que ces difficultés sont avérées, quelles sont les options?
Les sources insistent sur une méconnaissance, une peur de ces dispositifs.
C'est le grand paradoxe français. On a une des boîtes à outils juridiques les plus complètes au monde, mais les dirigeants en ont peur. Le mot « tribunal » est associé à la sanction.
Alors que c'est l'inverse.
C'est tout l'inverse. La clé, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment. On peut voir ça comme un parcours de soins pour l'entreprise.
Développer cette image, ça m'intéresse.
Au premier stade, premier symptôme, il y a les procédures amiables. Elles sont confidentielles. C'est comme aller voir son médecin traitant en toute discrétion.
Le mandat ad hoc et la conciliation. Exactement. Le but, c'est qu'un expert vienne aider à négocier un accord avec les créanciers, banques, URSSAF, sans que personne ne le sache.
Et si la maladie est plus avancée?
Si la prévention ne suffit plus, on passe aux soins plus lourds, les procédures collectives. C'est l'hôpital.
D'abord, il y a la sauvegarde. C'est une sorte d'hospitalisation programmée. L'entreprise n'est pas encore en cessation de paiement. Elle anticipe et se met sous la protection du tribunal pour se réorganiser.
Et si on a trop attendu, que l'entreprise ne peut plus payer ses factures ?
Là, c'est les urgences. C'est le redressement judiciaire. La cessation de paiement est là. Le but n'est pas de débrancher, mais de stabiliser et de voir si un plan de continuation est possible. Et seulement en dernier recours, si le redressement est impossible, on passe à la liquidation.
C'est beaucoup plus clair vu comme ça. Et dans ce parcours, quel est le rôle de l'expert comptable ? Le médecin de famille de l'entreprise ?
C'est exactement ça. Il est en première ligne, c'est lui qui voit les premiers symptômes sur les analyses de sang que sont les comptes. Son rôle est triple : détecter, alerter le dirigeant et l'orienter vers le bon spécialiste. Il ne faut pas oublier que l'enjeu est aussi personnel pour le dirigeant.
D'accord.
En cas de faute de gestion, il peut y avoir des sanctions. Le conseil est donc absolument crucial.
Pour conclure, après cette analyse très complète, quel est le pronostic pour 2026 ? On peut espérer une accalmie ?
L'expert Thierry Million, qui est cité dans nos sources, propose un regard prudemment optimiste. Le ralentissement très net de la hausse des défaillances fin 2025 est un signal vraiment positif.
Donc il y a de l'espoir.
Oui. Combiné à une légère amélioration des délais de paiement, ça laisse espérer qu'en 2026, on pourrait enfin voir le nombre de faillites commencer à baisser un peu.
Mais j'imagine que la prudence reste de mise.
Absolument. 2026 ne sera pas une promenade de santé. Plusieurs défis se profilent. Les perturbations logistiques, le nouveau mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
Et la facturation électronique.
Et surtout, oui, le grand chantier de la facturation électronique qui est un choc de transformation pour beaucoup.
Donc, si on devait donner un dernier conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent...
Je crois que la conclusion des experts est sans appel. Pour traverser 2026, il faudra une double compétence. D'un côté, une prudence financière, une gestion de la trésorerie au jour le jour.
Et de l'autre ?
De l'autre, une capacité d'anticipation stratégique pour ne pas subir ces transformations, mais les utiliser comme des opportunités. C'est cet équilibre qui fera toute la différence.
La Revue Française de Comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrançaisedecomptabilité.fr.